France Culture.
Vous en avez sans doute entendu parler, le sommet mondial de l'intelligence artificielle bat actuellement son plein à Paris et les déclarations se succèdent des nations aux fonds d'investissement en passant par les géants du numérique. Tous ont annoncé des milliards d'investissements. Si les sommes ne sont pas toutes à la même hauteur, leur emploi se concentre lui sur un objet majeur, les centres de données.
La France a des talents, c'est une très grande force.
Emmanuel Macron, le 9 février 2025.
Derrière, on est en retard sur les data centers, c'est-à-dire les capacités de calcul. Pour faire tout ça, il faut des super calculateurs qui vont prendre plein de données et aller très vite. Et donc, pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années.
Hier a été annoncé par le président de la République.
Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, le 7 février 2025.
Une annonce de partenariat avec les Émirats sur justement l'infrastructure, donc un gros projet de data center, notamment un campus pour l'IA. Les Émirats ont choisi la France. Ça montre notre attractivité.
Digital Realty numéro 1 mondial, hein, 320 data centers dans le monde.
Fabrice Cocchio, directeur France de Digital Realty, le 23 novembre 2023.
5 milliards de chiffre d'affaires, 42 milliards de capitalisation boursière, numéro 1 en Europe, numéro 1 en France, avec les deux hubs principaux que sont Paris et Marseille. La France a beaucoup de chance, c'est le seul pays de l'Europe à avoir deux hubs d'envergure mondiale, mais de surcroît dans le top 10 mondial. La particularité de Marseille, c'est un formidable atout géographique. On est avec l'Interland du cœur européen constitué de Paris, Londres, Francfort et Amsterdam. Et en face, 57 pays connectés, 5 milliards d'individus, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, jusqu'à l'Asie du Sud-Est.
Face visible et très matériel d'un secteur qui s'en voudrait pourtant détaché, paradoxe du retour sur Terre du cloud, les centres de données sont donc au cœur de la course à l'IA et la France, on l'entendait, compte bien devenir le lieu de destination privilégiée de ces fameux centres. Un endroit en particulier a déjà commencé à se démarquer, Marseille qui occupe la 6e place du classement mondial des hubs internet en termes de capacité de données grâce à un réseau de 70 000 km de câbles sous-marins de fibre optique par lequel passe 98% du trafic mondial de données, données qui sont ensuite traitées ou stockées dans pas moins de 7 centres de données. Alors comment Marseille s'est-elle inscrite sur la carte des données et quels avantages commerciaux et financiers attendre des partenariats noués avec des acteurs privés et très souvent étrangers? Le rapport de force entre collectivités et géants du numérique permet-il de croire à la prise en compte équitable de tous les usages du territoire? Retour en une heure sur la façon dont l'économie du numérique s'incarne donc à Marseille, dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jean. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Ophélie Coelho, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse indépendante, doctorante associée au Centre Internet et Société du CNRS et au Charisme Panthéon Assas. Votre ouvrage « Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant » apparu aux éditions de l'Atelier en 2023. Également avec nous Clément Marquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sociologie au Centre de sociologie de l'innovation de Mines Paris PSL. Alors on l'entendait, les annonces se multiplient dans le contexte du sommet mondial pour l'IA qui se tient en ce moment même à Paris. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé jeudi la construction d'un centre de données pour un montant de 50 milliards via le fonds d'investissement MGX, mais aussi le fonds canadien Brookfield Asset Management qui lui annonce 20 milliards d'investissements, dont 15 investis dans des centres de données au travers de la société Data4. Mais on a également l'entreprise britannique FluidStack qui a annoncé un partenariat avec le gouvernement français pour déployer le plus grand supercalculateur au monde pour l'IA pour un montant de 10 milliards d'euros. Amazon prévoit un plan de 6 milliards d'euros pour développer l'infrastructure cloud en France d'ici à 2031. Le suédois Evroc devrait construire sa première usine d'IA à Mougins. Le japonais Telehouse a annoncé un investissement de 400 millions d'euros et vise une mise en exploitation de ses nouveaux data centers spécialisés dès 2020. 2026. Et puis on peut enfin citer le français Sesterce qui va lancer un centre de données dans la Drôme pour un investissement de 400 millions d'euros. Ça fait beaucoup, beaucoup d'annonces. Un premier point s'impose au Félix Coelho. On a entendu un vocabulaire qui semble assez similaire. Data center ou centre de données en bon français. Usine DIA, infrastructure cloud, campus de données, supercalculateur. Est-ce que tout cela correspond à la même réalité?
Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que un centre de données, du coup, c'est un ensemble de serveurs, voilà, qui peuvent être soit alloués à des entreprises, soit loués en fait, c'est-à-dire en colocation de serveurs. Et il y a aussi des capacités de calcul, donc les fameux GPU, dont parlait d'ailleurs le président Macron aussi, donc qui permettent de faire du traitement de données. De données massives. Et donc, en fait, ces centres de données sont effectivement supportent en fait la charge numérique dans le sens où elle héberge les données et ensuite elle permet de faire un traitement sur place des données. Et par ailleurs, ce sont des centres de données qui sont connectés au réseau terrestre, puis au réseau donc de câbles sous-marins, donc qui a en fait une interconnexion. Voilà, avec du coup des réseaux plus mondiaux. Donc du coup, quand on a des centres de données en France, on va pouvoir héberger non pas seulement des données des Français ou des Européens, mais aussi en fait des données qui viennent d'autres continents, d'autres pays.
Donc on le comprend, pour stocker cette donnée, encore faut-il en avoir, d'où ce principe d'approvisionnement au Félix Coelho. Clément Marquet, vous le dites dans un de vos articles, le terme peut être utilisé, ce terme de centre de données, peut être utilisé autant pour désigner 30 mètres carrés de salle informatique dans les universités de Jussieu ou de Brest que les 20 000 mètres carrés de Digital Realty à la Courneuve ou les 330 000 mètres carrés d'Apple dans l'Oregon aux États-Unis, sans mentionner les 6,3 millions de mètres carrés du plus grand centre de données du monde en activité à proximité de la ville de Langfang en Chine. Je vous cite là. Quel est le point commun de toutes ces infrastructures, puisque ce n'est pas visiblement la taille ou la superficie?
Le point commun, c'est d'avoir du bâti qui est destiné à assurer le bon fonctionnement des serveurs. Donc pendant longtemps, il y a eu un certain flou dans la taille. Maintenant, bon, on utilise quand même centre de données plutôt pour désigner. Donc un bâtiment dédié est quand même généralement de grande taille. Et donc ce bâti, il sert à héberger non seulement les serveurs, mais tout ce qui permet aux serveurs de fonctionner. Donc les serveurs, quand ils fonctionnent, ça chauffe. Donc il faut des systèmes de climatisation, et on y reviendra sûrement, mais c'est un enjeu très important, notamment pour l'intelligence artificielle. Il faut de l'électricité et il faut de la sécurité pour les données. Donc de la sécurité pour les données, ça veut dire qu'on va redonder généralement, donc ça veut dire dupliquer l'ensemble du matériel qui sert à approvisionner en électricité les ordinateurs. Donc des groupes électrogènes pour prendre le relais en cas de panne, des onduleurs pour lisser le courant, et puis également tout ce qui sert en salle de batterie pour assurer en cas de le relais également en cas de problème. Donc la plupart des data centers, on va dire de taille industrielle ou qui servent aujourd'hui pour Internet, ils doivent être capables de tenir 2 à 3 jours en cas de coupure de courant en autonomie, donc souvent sur du fuel, grâce à des groupes électrogènes. Donc ça veut dire que pour un bâtiment, très souvent, on a quasiment la moitié du bâtiment qui sert à faire autre chose qu'à avoir des ordinateurs, mais à héberger l'ensemble technique qui permet à Internet, si on veut le dire ainsi, de fonctionner.
Clément Marquet, je reprends ma question, mais lorsqu'on parle d'infrastructure IA, de fait, est-ce qu'on parle que des centres de données? Est-ce que c'est ça la face émergée, on va dire, de l'iceberg? Ou est-ce qu'il y a tout un ensemble d'autres infrastructures auxquelles on pense peut-être un peu moins? Ou c'est vraiment ça qui incarne?
Alors oui, il y a l'ensemble logiciel, mais également, enfin, si on reste sur le centre de données, il faut bien distinguer les centres de données qui existent aujourd'hui majoritairement en France, qui ne sont très peu destinés à l'IA, et qui ont très peu, par exemple, les systèmes de refroidissement permettant à l'IA de tourner, et en grande majorité destinés à d'autres services plus quotidiens, y compris le cloud, etc., qui sont quelque part plus simples, parce que générant moins de chaleur. Et après, comme l'a suggéré Ophélie Coelho, le reste de l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes, c'est les données, c'est toute la phase plus informationnelle, en fait, qui permet de faire tourner ces services, qui fait tourner ces serveurs, qui fait opérer ces calculs, et puis les gens qui sont associés à ça.
Vous l'avez dit, aujourd'hui, on parle quand même majoritairement de très grands bâtiments, en tout cas de superficies assez larges, Clément Marquet. Est-ce que ça reste tout de même le seul modèle? Très concrètement, à quoi ça ressemble un data center? Est-ce qu'un centre de données, est-ce que si on en croise un, on sait toujours le reconnaître, ou est-ce que ça peut prendre des formes beaucoup plus diverses, juste pour qu'on ait un aperçu, si jamais
jamais on venait en croiser un dans la rue, on ne sait pas.
Mais il n'y a pas d'architecture dédiée au data center, en fait. Ça a longtemps été la réutilisation d'infrastructures industrielles ou tertiaires, type entrepôts, qui étaient abandonnés suite à la désindustrialisation en France, mais également dans d'autres pays. Donc ça peut être des entrepôts frigorifiques, une ancienne usine, des bunkers, tout espace finalement qui a des surfaces de plancher suffisamment solides pour accueillir des bêtes serveurs qui peuvent peser, on est dans l'ordre de la tonne. Et puis progressivement, les opérateurs sont mis à de plus en plus à construire en propre. Donc là, dans un premier temps, c'était des grands parallélépipèdes en tôle. Enfin, ça ressemblait pas à grand-chose, avec très peu de visibilité. Et récemment, on assiste notamment en France à un tournant dans l'architecture des data centers au sens où ils sont plus habillés, plus élégant, de sorte à, quelque part, améliorer les relations avec les potentiels riverains ou, en tout cas, leur environnement proche. Dans un souci d'acceptabilité de la part de l'industrie qui émerge depuis 5-6 ans.
Oui, on va voir que cette acceptabilité est extrêmement importante dans le sens où aussi ces implantations génèrent un certain nombre de conflits. Ophélie Coelho, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, on le voit, ces centres de données sont extrêmement importants, notamment dans le cadre de ce sommet mondial pour l'IA. Très concrètement, pourquoi l'IA vient renouveler la réflexion autour de ces centres de données? Qu'est-ce que cela implique en termes de circulation des données, pour qu'on ait peut-être un petit aperçu entre ce que génère Internet de façon très générale et de façon habituelle, entre guillemets, et justement l'IA, est-ce qu'on passe vraiment à un autre monde en termes de circulation des données?
C'est plutôt une consolidation du monde numérique existant. On a parlé donc du centre de données en termes d'infrastructure, on a parlé du cloud, rappelons que le cloud c'est justement du logiciel, donc c'est une couche logicielle en fait, et ça fonctionne un petit peu par imbrication, c'est-à-dire que généralement ces couches d'intelligence artificielle vont beaucoup fonctionner dans des infrastructures logicielles de cloud, donc c'est très lié en fait, et du coup c'est une continuité technologique plutôt qu'une rupture totale. Et donc, du coup, ça vient d'ailleurs consolider des dépendances technologiques préexistantes. Évidemment, du coup, comme l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de capacités de calcul et qu'aujourd'hui, la France et l'Europe cherchent un petit peu à avoir un rôle là où elle n'a pas su en avoir, donc dans le cloud, dans un certain nombre de secteurs, les médias sociaux, etc., elle essaie du coup de se positionner en tant qu'acteur stratégique. Et dans cette dimension-là, dans cette vision-là, c'est vrai, je vais pas dire le contraire, c'est vrai qu'investir dans des centres de données vous donne d'une certaine manière un pouvoir de nœud, en fait, de concentration d'une activité importante sur la chaîne, en fait, technologique. Donc oui, effectivement, ça peut être stratégiquement intéressant. Le problème, c'est que dans cette affaire, il y a beaucoup d'informations, donc déjà qu'on n'a pas. En fait, à savoir, par exemple, en quoi cela va avoir un poids, justement, en termes de consommation énergétique. Est-ce qu'on a vraiment testé des scénarios critiques, en fait, face à cela, puisqu'on sait que ces infrastructures sont très énergivores, on sait que ça va avoir des impacts sur les territoires, il s'en a déjà dans un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, on a peu d'informations là-dessus. On a juste des promesses en disant, bah voilà, on a 90 TWh d'excédent annuel, donc c'est pas comme si on avait 90 TWh tous les jours, etc., annuel en excédent, et donc qui nous permettrait, a priori, avec le nucléaire, de répondre à la demande. On a aussi des évolutions techniques, en fait, des serveurs et de GPU, donc ces fameuses puces, qui permettraient de consommer moins, en fait, d'énergie. Mais en fait, on n'a aucune certitude et on n'a pas de données, suffisamment de données pour faire des études aujourd'hui là-dessus. Donc, à mon sens, il y a à la fois un opportunisme qui est économique et qui est aussi d'une certaine manière stratégique. Avec, on peut modérer le fait qu'on est très dépendant à la fois du logiciel cloud, mais aussi de Nvidia sur les puces. Donc en gros, parmi les milliards d'euros qui vont être investis là-dedans, ça va beaucoup aller finalement à Nvidia. On va plutôt renforcer des dépendances, et économiquement, ça va pas revenir forcément dans la poche des Européens. Et par ailleurs, on a derrière une logique de gestion des risques qui, à mon sens, est très nébuleuse. On n'a pas beaucoup en fait d'informations là-dessus.
C'est intéressant cette notion de nœud que vous évoquez, puisqu'elle implique aussi la notion de concentration. Ce qui est aussi un des grands enjeux de ces centres de données. Clément Marquet, vous soulignez, notamment à travers une approche par les pannes, on va dire, par quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on comprend finalement du fonctionnement habituel de ces centres de données. Très concrètement, est-ce qu'on peut parler d'une forme de dépendance de notre économie, puis même de notre société en général, à ces centres de données? Qu'est-ce qui se passe très concrètement, quand un data center finit par ne plus parvenir à fonctionner, de quoi on se rend compte ?
Oui, bah ça peut occasionner, ça transforme par exemple un supermarché en entrepôt parce que aucun moyen de paiement ne va être fonctionnel. Ça transforme un aéroport en parking pour avions parce que les avions ne peuvent plus décoller. Enfin, donc on voit que l'ensemble de nos activités, quelque part, sont dépendantes du bon fonctionnement de ces centres de données. Et donc quand il y a des pannes importantes, ça met à l'arrêt des pans entiers de l'économie. Ça peut également, c'est pas que l'économie, ça peut aussi mettre aussi en danger les gens, simplement, quand des hôpitaux ne fonctionnent plus, etc. Donc ça a des répercussions majeures. Alors les acteurs économiques cherchent à s'en prémunir à tout prix. Quelque part, ça fait partie des investissements très importants. Je parlais de la redondance tout à l'heure dans les équipements électroniques, ça veut dire, et électriques. Ça veut dire que le data center, à un certain niveau de sécurité, va aussi se raccorder à plusieurs infrastructures de production d'attribution électrique, des postes sources de RTE pour être sûr d'avoir en permanence de l'électricité qui arrive. Et puis les données vont être redondées, les sites vont être également mis, on appelle ça en miroir, donc plusieurs data centers, deux data centers qui vont être à 50 km l'un de l'autre, qui vont fonctionner en même temps de sorte à ce que si l'un tombe en panne, l'autre va être mis en face. Donc c'est à la fois de l'argent et de l'énergie qui est dépensée pour que ça ne tombe pas en panne.
France Culture.
Voilà, donc là, je suis devant l'un des plus grands data centers du monde. Plus grand que celui que vous avez près de chez vous. Parce qu'il y en a forcément près de chez vous. Il y en a partout. Pour stocker, pour réfrigérer vos vidéos de chats qui se cognent contre des vitrines de vos lingeries.
Entendez-vous l'écho ?
Et c'est là qu'il y a mes données.
Aliatovine.
Clément Marquet, cette idée de mettre en miroir, comme vous l'avez dit, les données, on le comprend, il y a un énorme enjeu de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision-là, elle a une histoire, et vous le dites dans un de vos articles, on pourrait même faire remonter cela à presque avant que Internet ne se démocratise et qu'il y en ait un usage généralisé. Vous dites que cette idée de vouloir sécuriser les données, de les stocker dans un endroit où elles ne courraient potentiellement aucun risque, ça remonte, et j'en parle parce que nous sommes une émission d'économie, et que donc forcément il y a un parallèle qui s'instaure, mais ça remonte aux années 60, et déjà c'était dans la tête notamment du système bancaire pour sécuriser ces données. Dans quelle mesure ce système-là des années 60 a donné, était à l'origine finalement de ce qu'on a aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Alors c'est dans un article que j'ai coécrit avec Guillaume Carnino, qui est historien des sciences et des techniques, et qui a un exemplaire d'un ouvrage sur l'histoire du système informatique de la BNP Paribas, dont j'ai oublié l'auteur. Je vous prie de m'excuser à propos de ça. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que cette histoire montre que dès les années 60-70, on a une automatisation en fait, des centres de traitement de chèques. Et à cette période, un des enjeux, c'est notamment de s'émanciper des archivistes ou des risques de grève en fait, sur le traitement des chèques. Et donc, d'abord l'automatisation, puis l'informatisation va permettre progressivement d'assurer un fonctionnement un peu continu de l'économie pour la banque. Et avec ça, on retrouve quelque part tout un ensemble de principes qu'on a par la suite dans les data centers plus contemporains, qui vont être des groupes électrogènes et tout un ensemble d'équipements qui permettent d'assurer ce qu'on appelle la continuité de service en fait, de l'activité jour et nuit, 24 heures sur 24. De sorte à prendre de l'avance, par exemple, sur les autres banques.
Ce qu'on comprend à ce stade de l'émission, Ophélie Coelho, et qui n'est peut-être pas très intuitif dans ce domaine, c'est que finalement, les infrastructures très matérielles sont tout aussi stratégiques que les logiciels, que les softwares aussi dans le domaine de l'informatique. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'en travaillant sur le numérique, on pourrait s'émanciper d'une dimension matérielle. Or, ce n'est pas du tout le cas. Comment ces infrastructures-là sont conçues par les géants du numérique ? Est-ce que ce sont des choses qu'elles ne maîtrisent pas et que donc, de fait, elles externalisent ? Est-ce que c'est vu comme une compétence que ces géants-là n'ont pas de fait?
Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Effectivement, en fait, il n'y a rien de plus physique et matériel que le numérique. En réalité, on a eu tendance à gommer cela aussi par idéologie. Hein. Mais il n'y a rien de plus territorial aussi que le numérique, en réalité. Donc, le village global sans frontières, je pense qu'il est temps de revisiter cet idéal-là qui n'a jamais été réel, qui n'a jamais été vrai. Concernant les leaders du marché du logiciel, donc les grands géants du numérique, Amazon Web Services, Google, Microsoft, Apple, etc. Bon. En fait, en termes de réseau, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ils étaient peu présents sur tout ce qui était télécommunications. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ils sont à la fois leaders sur la couche logicielle, ils ont la plus utilisée. Et quand je parle de couche logicielle, je parle autant de ce qu'on connaît en tant qu'interface, hein. Les outils qu'on utilise, voilà, de bureautique en ligne, les outils, les médias sociaux, mais aussi l'infrastructure logicielle, c'est-à-dire le fameux cloud dont on parle, qui est en fait ni plus ni moins qu'une bibliothèque de services, à la fois pour les utilisateurs finaux que nous sommes, mais aussi pour les développeurs d'applications. Voilà, première chose. Et ensuite, depuis du coup une dizaine d'années, ils ont de plus en plus investi sur la partie télécommunication, à savoir les câbles, voilà, les câbles sous-marins au niveau voilà du réseau global, hein, transatlantique, transpacifique. On a encore des nouveaux câbles géants qui sont aujourd'hui construits par ces acteurs-là. Ce sont d'ailleurs les seuls à pouvoir investir autant d'argent en fait aujourd'hui dans ces secteurs-là, alors que les télécoms ont pris beaucoup de recul en fait là-dessus pour des questions globalement financières. Ou alors ils vont éventuellement participer à des consortiums avec eux, dont ils ne vont pas être les investisseurs majoritaires. Et sur les centres de données aussi. Sur les centres de données, ils vont investir dans leurs propres infrastructures de données, mais ils vont aussi beaucoup confier leurs données à des géants du secteur, à des leaders du secteur. C'est une manière, en fait, de profiter aussi d'un modèle économique qui est un petit peu différent, qui est celui de la société immobilière cotée en bourse, en fait, hein, les REIT, comme Digital Realty et Equinix aussi, qui sont du coup les meilleurs partenaires des hyperscalers, notamment en Europe, mais un peu partout dans le monde.
Et c'est ce qui fait qu'on en arrive à deux types d'acteurs, finalement. On a ces fameux géants du numérique dont on connaît toutes et tous le nom, les fameux Meta, Amazon, etc., que vous venez de citer, Ophélie Coelho. Et puis à côté, on a des noms qu'on connaît peut-être un peu moins, que vous avez également cités, Equinix, Digital Realty, NTT, pour citer les trois plus gros. Et puis il y en a quand même une petite flopée.
Il y en a beaucoup, mais il y a un très gros écart entre les leaders et les autres.
C'est ça, il y a un vrai phénomène de concentration, voilà, sur lequel on va revenir. Clément Marquet, très concrètement, quand on parlait de profiter d'un système, d'un modèle économique qui ne serait pas tout à fait celui des géants du web, très concrètement, comment ça fonctionne? On a par exemple Amazon qui va louer un bout de data center, de centre de données, et ça c'est plus rentable économiquement. Pourquoi ça fait partie du calcul finalement?
Oui, alors ils vont louer un bâtiment entier. En effet, ces acteurs de la colocation, il faut voir si on prend en termes de mètres carrés occupés pour Internet dans le monde, c'est les propriétaires fonciers d'Internet. Après, ils sont soit loués donc par les grands acteurs du web dont on parlait, soit loués par les municipalités, par les entreprises qui veulent faire des économies sur leurs infrastructures. Sur leurs infrastructures, parce qu'à la différence de Google ou d'Amazon, Decathlon ou LVMH va pas forcément avoir intérêt à payer l'entretien de ces infrastructures, et donc ils vont mettre leurs serveurs, parce qu'ils veulent continuer à les opérer, dans l'infrastructure de quelqu'un d'autre et louer de l'espace.
D'où l'idée de colocation.
D'où l'idée de colocation. Donc en termes par contre d'échelle, Google ou Amazon, quand ils vont prendre de l'espace chez un acteur de la colocation, ils vont s'orienter vers prendre un bâtiment entier. Donc ça va être 20 000 m² quasiment d'un coup qu'ils vont investir. Donc c'est quasiment un projet commun avec l'opérateur de colocation. Les autres acteurs vont aller sur des surfaces beaucoup plus petites qui vont dépendre de leurs besoins quand ils ne vont pas tout dédier à Google ou Amazon. Et l'enjeu du coup de passer par la colocation, ça peut être des questions d'image, c'est-à-dire que lorsque Amazon veut construire un data center en France, ils ont une mauvaise image, donc il y a tout de suite des oppositions qui arrivent. Arrivé par Equinix ou Digital Realty, personne ne sait qui c'est, donc on les regarde pas trop.
Contourner la difficulté.
Voilà. Mmh. Ensuite, c'est aussi profiter du fait que ces acteurs ont quelque part anticipent sur le marché et donc vont prospecter en permanence. C'est des acteurs de l'immobilier, hein, donc leur problème c'est d'acquérir le plus vite du terrain pour le mettre sur le marché au bon moment et d'être le premier à prendre la bonne place au bon endroit. Donc d'où par exemple un des enjeux pour Digital Realty sur Marseille, de façon parfois exclusive vis-à-vis de leurs concurrents. Et donc ça permet à des gros acteurs ensuite, quand ils veulent déployer leurs infrastructures cloud, par exemple régionaux, de bénéficier du fait que les permis de construire, la réservation de l'électricité, les déclarations pour des installations classées pour la protection de l'environnement, en gros toutes les démarches administratives sont faites, le data center est presque construit ou est en voie de construction, et ils vont pouvoir faire tourner leurs services dans l'année ou les deux ans qui viennent, alors qu'il aura fallu 7 ans pour construire ce projet de data center. Donc c'est une économie de temps pour le déploiement des services.
Ophélie Coelho, est-ce qu'on a une idée? Il est possible que non, parce qu'on a bien compris que la donnée était difficilement accessible aussi dans ce secteur-là. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de coûts lorsqu'on loue justement un data center ou une partie de centre de données pour de ces géants, ces GAFAM entre autres. Est-ce que c'est un gros poids dans leur budget?
Alors ça va beaucoup dépendre des projets et effectivement on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Je rajoute néanmoins quelque chose sur le modèle d'entreprise de la REIT. L'avantage aussi c'est qu'il bénéficie d'un modèle fiscal, en fait d'avantages fiscaux vraiment très avantageux. Et donc c'est aussi une question de gros sous, hein, c'est-à-dire qu'ils vont attirer aussi derrière des investisseurs et qui vont pousser ce modèle-là de centre de données géants via des REIT, du coup, comme Equinix et DigitalBridge.
Et on va voir comment effectivement la fiscalité a beaucoup joué dans l'intrusion de ces nouveaux acteurs qui de fait ne sont pas du tout assimilables à des géants du numérique, il faut bien le dire. On a beaucoup parlé d'infrastructures, que ce soit les câbles sous-marins ou ces fameux centres de données, et c'est là où on en arrive au cas assez emblématique de Marseille qui va nous intéresser de fait aujourd'hui. La ville, on le disait, compte 7 centres de données. Le dernier en date a été inauguré le 23 janvier par l'entreprise française Phocéa d'ici.
On est à Marseille parce que Marseille vient de passer 6e hub mondial de l'Internet. Donc les data centers sont les infrastructures qui servent notamment le réseau Internet mondial. Et Marseille est, on le sait, une des places majeures de ce réseau. La particularité de Phocéa d'ici, c'est d'être un acteur de taille plus raisonnable, de proximité pour la ville et 100% marseillais. On l'a fait avec des entreprises marseillaises et pour les entreprises marseillaises. Ça, ce sont les armoires où sont installés les serveurs des clients. Donc, ce sont des salles sécurisées en termes de température, d'énergie électrique et d'accès. Et c'est dans ce genre de salles, on en a plusieurs sur ce site, où vont pouvoir s'installer les équipements des clients qui veulent délivrer des services informatiques sur l'Internet ou autre.
Voilà, Damien Desanti, le fondateur de Phocéa d'ec, lors de l'ouverture de son centre de données le 23 janvier 2025, il y a donc quelques jours. Clément Marquet, est-ce que le fait, pour une ville comme Marseille, d'avoir 7 centres de données est un fait exceptionnel en soi? Est-ce que c'est une concentration qu'on retrouve nulle part ailleurs en France?
Non, c'est pas exceptionnel. Ce qui est relativement exceptionnel, même s'il y a un ou deux autres cas dans le monde, c'est la concentration de câbles sous-marins. Donc, ce qui se passe aujourd'hui sur Marseille, c'est qu'on a une ville qui est positionnée dans le transit de données, puisqu'il y a, je sais plus, 18, quelque chose comme ça, câbles sous-marins qui arrivent. Ça devient la 6e concentration de données dans le monde. Mais le fait d'avoir des câbles sous-marins ne signifie pas nécessairement avoir des centres de données. Donc le pari qui a été fait à Marseille, c'est d'associer, comme dit Fabrice Coquiot, une place de transit à une place de contenu. Mais si on prend la présence des centres de données, Marseille reste une petite place, même à l'échelle de l'Europe. On a une centaine de mégawatts qui sont installés. Si on prend la région parisienne, on doit être plutôt entre 5 et 700, je ne sais plus les chiffres. À Londres, on a plus de 1 gigawatt qui est déjà installé. Francfort, Amsterdam sont aussi des très grosses places. Donc c'est une petite place qui est en développement, qui a un enjeu particulier. Mais qui a la différence peut-être, si on essaye de préciser un peu ce qu'est Marseille, c'est que quand on parle de Paris, de Francfort ou de Londres, on parle d'espace où il y a la ville et sa banlieue. Il y a un grand espace autour finalement, alors que Marseille, on a un environnement qui est extrêmement très contraint. Il y avait un philosophe qui disait que Marseille est la ville qui mange ou recycle ses banlieues, au sens où les gens peuvent pas s'éloigner beaucoup à cause des montagnes qui sont autour. Et donc le foncier est extrêmement contraint à Marseille. En même temps, les acteurs économiques veulent être à proximité des câbles sous-marins. Et donc ça crée, en plus d'autres paramètres sur lesquels nous reviendrons, une certaine tension dans le développement local des data centers.
C'est intéressant cette proximité avec les câbles sous-marins, Clément Marquet, parce que vous l'avez dit, et puis on l'a vu dans les annonces aussi récentes, il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits dans le nord de la France, en Île-de-France, c'est pas vraiment des espaces maritimes. Est-ce que vraiment les centres de données ont besoin de ces câbles? Est-ce que sans câbles, pas de centre? Est-ce que c'est vraiment le lien qu'on peut faire?
Alors, il y a un lien, parce qu'en fait, le nord de la France est très irrigué en câbles. Oui. La différence, c'est qu'ils sont pas concentrés, leur point d'atterrage n'est pas au même endroit. Pour des questions géographiques, Marseille se trouve, parce qu'il y a la Méditerranée, il y a plus de contraintes en termes de montagnes, etc., que la façade atlantique et du nord, mais la majeure partie du trafic de données qui va vers les États-Unis passe en fait entre la France, Londres, l'Irlande et puis rejoint les États-Unis. Et ça représente un transit énorme. Et on a dans le nord de la France une dorsale. Enfin, on parle de dorsale de l'Internet pour parler de ces câbles à très haut débit. Donc c'est un espace très irrigué en fait en télécommunication. Marseille est plus singulier parce que au lieu de se disperser sur la façade méditerranéenne, les câbles se sont concentrés en un seul endroit.
Ophélie Coelho, la comparaison ne va pas forcément nous donner raison, de fait, mais dans quelle mesure cette concentration de 7 centres de données qui, on l'a vu, peut arriver autre part en France, dans quelle mesure avoir 7 centres de données à l'échelle mondiale, c'est un phénomène qui est finalement assez commun d'avoir cette idée de concentration sur un territoire donné.
Alors là, en l'occurrence, on a quand même une convergence de projets, d'événements plus ou moins récents. On a déjà les nouvelles routes de la soie numérique chinoise qui font qu'on a eu effectivement de nouvelles connexions de câbles sur Marseille, avec ce canal de Suez qui, à la base, historiquement, hein, depuis les câbles télégraphiques, était déjà un endroit majeur hein, de concentration des câbles. Et puis, la raison pour laquelle c'est important à cet endroit-là en particulier, c'est aussi parce qu'en face, on a quoi ? On a le continent africain, avec un développement des usages numériques qui est de plus en plus grand. Hein. Bon, ça reste un pari pour les grandes entreprises, mais il y a vraiment une stratégie d'expansion et de prédation de la part des grandes multinationales du numérique sur le continent africain. Et effectivement, hein, quand on regarde les projets de câbles assez récents, que ce soit de la part des télécoms chinois ou des entreprises américaines, et le développement du réseau à la fois terrestre et maritime en Afrique, on se rend bien compte qu'en fait, il y a quand même une problématique là-bas qui est le manque de centres de données pour le moment sur les territoires dans un certain nombre de pays africains, qui fait que en attendant qu'il y ait des centres de données justement pour pouvoir supporter les futurs usages, les usages actuels et futurs usages des pays africains, il va y avoir aussi une concentration des données en Europe et en particulier, on peut le voir en France pour des raisons qui sont d'ailleurs aussi énergétiques parce qu'on a le nucléaire.
Ce qui est intéressant, c'est que de fait, Marseille joue aussi en raison de sa position géographique, une forme de proximité, puisque en fait, dans ce qu'on comprend de ce que vous dites, Ophélie Coelho, c'est une sorte de rampe de lancement vers le continent africain. Clément Marquet, vous souhaitiez réagir sur cette configuration spécifique.
Oui, tout à fait. Sur la question de la, puisque c'est une émission sur si géographique, sur cette question de la concentration, elle est intéressante en matière de centres de données. Il y a les travaux notamment de Fanny Lopez et Cécile Diguet, un ouvrage sous le feu numérique qui l'aborde un peu. Et on peut distinguer plusieurs dans les types de centres de données. En fait, des centres de données qui sont plutôt dédiés au cloud historiquement, qui sont plutôt dans des espaces périphériques, en fait, ruraux. C'est notamment une grande partie de ceux qui sont installés aux États-Unis. Mais on en a aussi dans le nord de l'Europe, en Finlande, etc. C'est ce dont on entend le plus parler. Mais il faut voir que la majeure partie de l'emprise en fait foncière de l'internet est autour des grandes métropoles, parce qu'il y a ces réseaux de télécommunications dont on parlait précédemment, qui sont les dorsales de l'internet et qui relient les métropoles en tant qu'ancienne, enfin et actuelle place financière. Et c'est entre les métropoles que se tissent les réseaux et que s'interconnectent les réseaux. Et quand on parle des réseaux, on ne parle pas juste des 4 opérateurs nationaux, mais on parle de plus de 190, 200, parfois 300 opérateurs de télécommunications qui se regroupent dans ces espaces-là et qui sont en fait l'enjeu pour ces data centers de colocation de leur marché, c'est-à-dire avoir des réseaux, le plus de réseaux possible qui arrivent jusqu'à chez eux pour permettre à leurs clients de choisir où est-ce qu'ils vont distribuer leur contenu. Et donc c'est là où on revient sur la question de l'Afrique, l'Asie, etc. C'est-à-dire avoir le plus de réseaux possibles qui vont permettre d'alimenter l'Afrique en contenu, c'est un enjeu pour Marseille, d'où l'intérêt de se mettre à cet endroit-là pour ces acteurs de la colocation.
Ophélie Coelho, est-ce qu'il y a une sorte de calcul qui émerge de cette façon-là ? C'est-à-dire qu'on voit bien tous les avantages qu'il y a à s'implanter, notamment à Marseille, et puis même de se disséminer en France pour avoir accès à d'autres paysages, on va dire, et notamment numériques. Est-ce que, pour contrebalancer, on va dire, ces avantages-là, est-ce que la sécurité représente un risque ? Parce qu'on pourrait se dire que de très très gros acteurs n'auraient pas forcément envie de s'éparpiller un peu partout en France, en Europe, des gros acteurs américains et puis chinois, vous l'avez dit, ils pourraient se dire on préfère internaliser tout, avoir le contrôle sur tout et pas confier nos données un peu partout sur le territoire français à des opérateurs, alors certes qui sont des géants en eux-mêmes, mais dans quelle mesure il y a cette notion de risque-là qui émerge ?
Alors la notion de risque, elle est à plein de niveaux à ce moment-là. On est extrêmement dépendant de toute façon d'acteurs qui sont pas européens, qui sont pas français. Donc en fait, je veux dire, de ce point de vue-là, avoir des centres de données sur son territoire, c'est presque plus rassurant que de les avoir à l'extérieur, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et en même temps, ça ne l'est pas, puisque dans ces centres de données, toute la couche logicielle n'est pas à nous, en quelque sorte. Donc, enfin bon, c'est compliqué de parler de la logique de risque à partir du moment où on est si dépendant d'acteurs extérieurs. Bon, de toute façon, on n'a pas la maîtrise. On ne fonctionne pas en vase clos et d'ailleurs, ça n'a pas forcément d'intérêt dans tout, en fait. Là où il faut plutôt avoir une logique de gestion de risque, c'est dans certains domaines comme la santé, l'administration, l'éducation, évidemment, la sécurité, etc.
France Culture.
Au vidéo diaboliques sont partis en enfer. C'est-à-dire qu'elles sont dans un data center hyper sécurisé et lointain.
Entendez-vous l'écho?
Je peux éventuellement essayer de l'identifier, mais dans ces trucs-là, Dieu a trouvé plus fort que lui.
Aliatovine.
Clément Marquet, on a bien compris les avantages qu'avaient certains grands groupes ou même des beaucoup plus petites structures à profiter de ce système de colocation via les centres de données. On peut désormais se demander pourquoi les pouvoirs publics, pourquoi une localité spécifique aurait intérêt à attirer finalement ces acteurs-là sur son territoire. Ophélie Coelho le dit dans son ouvrage, la Virginie, donc aux États-Unis, qui abrite déjà plus de 20% de tous les centres de données connus dans le monde, a réduit sa taxe foncière. L'État mène une politique fiscale très avantageuse avec une exonération des ventes au détail pour les entreprises de colocation de serveurs et de la taxe d'utilisation pour leurs locataires. Est-ce que c'est également le cas à Marseille et ce qui expliquerait aussi cette concentration?
Ce n'est pas le cas, mais la Virginie s'en mord les doigts aujourd'hui sur des questions d'électricité. Mais sur Marseille, la spécificité en fait, de l'installation des centres de données à Marseille, c'est qu'ils ne s'installent pas à Marseille, mais sur le grand port maritime de Marseille. Et donc là, il y a un avantage fiscal parce que le grand port maritime de Marseille est exonéré de taxes foncières depuis 1942. Plus récemment, en 2014, il y a une directive européenne qui interdit ce type de zone franche. Mais des derniers échanges que j'ai eus avec l'administration marseillaise, cette question n'est toujours pas résolue. C'est-à-dire que le grand port maritime ne paye toujours pas ses taxes à la ville, ou en tout cas, c'est ce que la ville lui reproche. Et du coup, on peut imaginer que le coût du foncier pour les opérateurs de data center est plus attractif sur le grand port maritime de Marseille qu'ailleurs. Après, il se trouve que dans l'Union européenne, la capacité à jouer sur la fiscalité pour attirer les data centers ne va pas tant se jouer sur le foncier. Je ne sais pas si c'est possible en fait, d'un point de vue réglementaire. Par contre, elle se joue énormément sur le prix de l'électricité. C'est-à-dire que les pays européens se livrent à une sorte de petite guerre économique sur le prix de l'électricité. Chacun va de sa déduction fiscale. Mais donc là, on dépasse le contexte marseillais. Et dans ce cadre-là, la France, depuis... Alors, au moins 2019, si ce n'est deux ans avant 2017, a une déduction fiscale de 50% du prix de l'électricité pour les centres de données qui consomment plus de 1 gigawattheure par an. Donc, en gros, des centres d'une certaine taille, déjà. Donc, ça favorise des acteurs plutôt imposants.
Et ce qui permet, on le voit, de former une forme d'attractivité. On en arrive là et on le voit avec cette question du foncier qui est très, très importante. Je reboucle la boucle, Ophélie Coelho, avec ce qu'on a commencé à aborder, mais il faut bien faire le point parce que c'est pas forcément très intuitif pour nous, Français. Mais vous citez la situation américaine et pour bien comprendre de quelle nature sont ces acteurs dont on parle aujourd'hui, vous dites que le secteur de la donnée, soit des entreprises spécialisées dans le stockage, s'est libéralisé, ce qui a favorisé l'émergence de sociétés d'investissement en immobilier cotées en bourse et à l'international. Ça, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Et ce sont des structures qui sont largement avantagées fiscalement en tant que telles. Du reste, Digital Realty, qui a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait considérablement investir dans des centres de données à Marseille et en région parisienne avec 13 nouveaux sites et un investissement cumulé à 5 milliards d'euros, est un Real Estate Investment Trust. Autrement dit, en fait, ce sont des gestionnaires immobiliers plus que des producteurs de technologie.
Absolument. Absolument. Alors après, à modérer, parce qu'évidemment, ils deviennent experts aussi dans le secteur progressivement, mais avant toute chose, ce sont des objets pas de spéculation, mais d'investissement, en tout cas, qui effectivement bénéficient d'avantages fiscaux en échange, en fait, d'un résultat, d'un chiffre d'affaires avantageux, voilà, et de dividendes avantageuses, bénéficiaires. Donc, voilà.
Et on voit là à nouveau toute la pertinence de ce modèle économique aussi qui se met en place en fonction des niches fiscales, on va dire, accordées. Clément Marquet, très concrètement, à partir de quand Marseille devient un port d'attache, pour le dire ainsi, pour les centres de données, et surtout sur l'impulsion de qui? Qui œuvre à la mise en place de ces centres?
C'est essentiellement le travail de Fabrice Cocchio, en fait, d'abord par une entreprise qui s'appelait Interxion et qui depuis a été rachetée par le groupe états-unien Digital Realty. Donc, originellement, c'est une entreprise hollandaise. Et en 2014, Fabrice Cocchio va racheter un centre de données de SFR dans le centre de Marseille, en fait, dans le quartier de la Joliette, qui est le premier bâtiment qu'ils ont, alors pas construit parce qu'ils ont réaménagé un centre de données existant. Et puis, par la suite, en 2018, 2020, les dates exactes après 2023, 2025, 2026 pour les prochains. Ils ont investi plutôt le grand port maritime de Marseille avec des centres de données relativement imposants, de l'ordre entre 15 et 20 et 20 mégawatts, ça fait de 4 à 6 000 mètres carrés. Et donc, il y a vraiment eu un pari de la part qui, on peut considérer probablement économiquement, a été gagné de la part de Fabrice Coquiot de transformer Marseille, mais finalement de se retrouver aussi dans une situation quasi monopolistique, hein, au sens où il y a, on mentionnait Fosséa, ADC, je donnais des ordres de grandeur. C'est à peu près 100 mégawatts qui sont dédiés à Digital Realty autour de Marseille. Fosséa ADC, c'est 1,2 mégawatts, donc c'est 1700 mètres carrés, c'est beaucoup plus petit. Et puis il y a un autre data center du groupe Free, Free Pro, qui a racheté une entreprise d'origine de Marseille, qui fait autour de 15 mégawatts. Donc voilà, on est sur une très large domination de Digital Realty qui, quelque part, arrive à prendre les terrains avant les autres et à transformer donc cette place en hub.
Fabrice Coquiot, qui, je le rappelle, est le directeur France, pour dire ainsi, de Digital Realty, d'où son investissement, on va dire, notamment sur le territoire marseillais. Alors comment se construisent ou au contraire se subissent les relations entre les collectivités et ces acteurs privés et très souvent étrangers? Et puis quelles retombées économiques espérées pour les territoires en question? Vous connaissez peut-être, sans doute, je l'espère, les démons de minuit. Sachez que le groupe Image est aussi à la pointe des technologies numériques, mais de son époque.
Nuit d'aventure sur...
Connexion sur le réseau, vous êtes bien à l'écoute de France Culture où on découvre un monde de moins en moins nouveau, de fait, puisque nous nous intéressons aujourd'hui aux centres de données qui fleurissent notamment à Marseille depuis une dizaine d'années et aux enjeux financiers et commerciaux de cet aspect très concret des infrastructures liées au numérique. Nous sommes toujours en compagnie de la spécialiste en géopolitique du numérique Ophélie Coelho et du sociologue aux mines de Paris PSL Clément Marquet. Ophélie Coelho, que ce soit pour les câbles sous-marins dont on parlait ou les centres de données, il s'agit à chaque fois d'un aménagement très conséquent du territoire. On l'a dit, à Marseille, à plus forte raison, dans un territoire qui est très contraint, puisqu'on disait, il s'agit de 70 000 km de câbles dans toute la région, câbles qui sont au nombre de 18, on le disait, je crois, à l'instant, à sortir au niveau de la plage du Prado et des quais du grand port maritime de Marseille. Quant aux centres de données, je le rappelle, ils sont au nombre de 7. Le dernier en date a été inauguré le 23 janvier dernier. Il fait tout de même 12 000 mètres carrés. Très concrètement, quels avantages voient les collectivités lorsque ce genre de projet déboule ?
Un avantage économique, en tout cas une promesse. Une promesse qui s'accompagne par ailleurs d'un aménagement du territoire qui n'est pas seulement le centre de données, puisqu'on va parfois avoir d'autres ensembles d'entreprises, des entrepôts pour du e-commerce, etc., qui vont s'installer autour aussi. Donc en fait, c'est vraiment cette promesse-là de rentabilité, et puis c'est aussi des consommateurs, hein, les centres de données, c'est des consommateurs de ressources énergétiques, de ressources en eau, etc. Donc bon, Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer aussi en termes de contractualisation aussi. Et ça, c'est aussi autant vrai pour un pays européen que pour d'autres pays. Moi, je travaille actuellement beaucoup sur l'Afrique du Sud. Et quand Digital Realty construit des centres de données géants en marge, en fait, hein, de Johannesburg, il y a vraiment tout un écosystème qui se forme autour. Il y a même des gated communities qui se bâtissent autour. Donc, c'est-à-dire vraiment des résidences fermées, voilà, avec la logique de sécurité, hein, qu'on connaît en Afrique du Sud. Donc il y a vraiment en fait cette promesse-là qui derrière n'est pas forcément d'ailleurs tenue, mais voilà, en tout cas c'est cette promesse-là pour la collectivité d'une rentabilité, d'une activité économique complémentaire et d'emploi éventuel sur la zone.
On va discuter de la notion d'emploi évidemment, mais tout de même j'avais une autre question à vous poser, Ophélie Coulot, parce que j'ai trouvé cet exemple assez intéressant. C'est le cas d'Orange Marine, la filiale de l'opérateur télécom spécialisé dans la pose et l'entretien de câbles sous-marins. Alors, ce qu'on apprend dans cet article du Monde qui porte notamment sur cette filiale, on apprend que cet entretien de câbles, puisque ça demande de l'entretien, il y a tout un écosystème autour qui fait qu'on a besoin parfois de faire un peu le ménage. Cet entretien-là, ça rapporte seulement 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un total de 43 milliards pour Orange. Et ça nécessite des investissements très lourds, puisque le Sophie Germain, le navire de réparation qui a été mis en service en 2023, a coûté 50 millions d'euros. Christelle Edeman, la directrice générale du groupe Orange, estime qu'il s'agit là certes d'une potentielle perte économique, mais d'un véritable enjeu de souveraineté. Sauf que là, Ophélie Coulot, on l'a dit, les câbles dont il est question là sont la propriété de groupes chinois, américains. Il est où l'enjeu de souveraineté là-dedans ?
Alors, il faut toujours modérer les choses. Bon, déjà sur la propriété des câbles, aujourd'hui, bon, tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait plus que les acteurs du numérique qui peuvent investir là-dedans. C'est vrai, mais en revanche, il y a un historique. Il y a beaucoup de câbles qui appartiennent aujourd'hui aux télécoms. Il y a une transition qui est en train de se faire vers les grands acteurs du numérique. Ensuite, concernant les flottes de navires câbliers qui sont en capacité de maintenir, de travailler sur ces câbles lorsqu'il y a des ruptures, eh bien oui, c'est un enjeu très important de conserver en fait un savoir-faire et une ressource en fait pour peser dans les négociations avec ces acteurs. C'est-à-dire que si on n'est pas propriétaire de câbles, voilà, si on n'a plus les capacités de le faire, eh bien au moins soyons là pour négocier quand il y a un problème sur un câble, pour dire « Ok, d'accord, alors attends, moi je vais agir avec mes propres acteurs. En revanche, discutons de tel ou tel texte. » Voilà. Voilà. Je pense que c'est très important d'avoir cette idée d'instrumentalisation de l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de technologie, bah alors du coup, il faut aussi qu'on soit en capacité de faire jouer nos acteurs sur des dépendances vis-à-vis d'acteurs voilà, qui sont dominants. Justement sur le marché.
Et donc de se positionner potentiellement sur d'autres secteurs, ce que fait Absolument. De fait Orange Marine avec sa flotte, je crois, de 7 navires. Mais de la même façon, Clément Marquet, puis pour rester dans cette optique des investissements quand même assez lourds hein, qui sont demandés, Digital Realty, vous l'avez dit, il y a un centre de données à La Joliette, à un quartier qui donne sur la mer. Elle a 4 autres centres de données sur le port, dont le dernier en date a consisté à réhabiliter l'ancien silo à sucre Saint-Louis, une opération qui a coûté 260 millions d'euros. C'est rentable pour eux, très concrètement, de faire ça ?
Ah oui, c'est très très rentable. C'est autour de 700 millions d'investissements à Marseille, Digital Realty. Le secteur du data center, ce qu'expliquait la filière lors de salons, c'est autour de 15 à 30% de croissance par an depuis bien 15 ans. C'est des prévisions qui sont à peu près les mêmes. En fait, c'est un des principaux relais de croissance aujourd'hui de l'immobilier et on voit de nombreuses entreprises de l'immobilier qui se tournent aujourd'hui vers le secteur du data center. Alors peut-être qu'il y a des effets bulles et peut-être qu'elles n'y retrouveront pas leurs petits à la fin parce qu'elles... Elles se sont pas toutes spécialisées là-dedans au début, mais notamment des acteurs spécialisés dans les centres commerciaux qui se disent « Bon, les centres commerciaux, ça fonctionne plus très bien. Il y a l'air de se passer quelque chose autour des centres de données. Autant y aller. » Donc, en effet, c'est très intéressant. Et du coup, ça peut être un des leviers, on avance un peu sur la suite de la discussion, mais pour les pouvoirs publics, par exemple, de pousser ces acteurs-là à dépolluer des sites qui ne seraient pas réutilisés. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu été fait... par le grand port maritime, hein, parce que le silo à sucre n'est pas vraiment réhabilité, il a été désamianté et détruit pour être reconstruit au-dessus, donc c'était des opérations qui ont un sacré coût. Et puis à proximité, il y avait il y a toujours un bunker construit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qui devait abriter des câbles sous-marins qui n'étaient pas utilisés parce que ça coûtait trop cher de l'utiliser, ils n'étaient pas détruits parce que ça coûtait trop cher de le détruire également. Et la seule acteur économique qui s'est intéressé à ce bâtiment pour en faire quelque chose, c'est Digital Realty. avec aussi autour de, je ne sais plus, entre 150 et 250 millions d'euros d'investissement pour cette opération. Donc on peut, dans les, quelque part, dans leur croissance, en profiter un petit peu sur certains cas et éviter d'artificialiser des terrains agricoles, par exemple, par la construction de bâtiments dédiés à Internet.
Reste à savoir si cette activité profite à l'économie locale et au territoire de façon plus large. C'est tout l'enjeu des emplois, hein. On le disait que cela implique. Sur ce point, Arthur Mensch, le cofondateur et président de Mistral AI, et Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, s'exprimait hier au micro de France Inter.
L'intelligence artificielle, ça nécessite d'avoir beaucoup de capacités de calcul et pour faire de la R&D, donc pour construire les modèles et compresser l'intelligence. Et donc ça, il faut le faire, ça a une empreinte territoriale assez significative et énergétique significative. Et donc on le fait aujourd'hui, on est fiers de le faire. Mmh. Ça veut dire, je pense, je dirais plusieurs dizaines d'emplois, parce qu'il y a, besoin d'avoir, il faut monter les machines, il faut changer les machines quand elles sont cassées, il faut opérer les murs, il faut opérer l'électricité, il y a beaucoup de choses à faire.
C'est des milliers d'emplois directs, parce que c'est la création des data centers, c'est de l'infrastructure, c'est du BTP. Donc, c'est des milliers d'emplois indirects.
Clément Marquet, derrière cette question de l'emploi s'en cache une beaucoup plus naïve et prosaïque, on va dire, et que je vais donc vous poser. Est-ce que pour faire tourner un centre de données, on a besoin de beaucoup de monde?
Oui, bon, on entend un flottement, c'est Xavier Niel, non, qui reprend des milliers d'emplois indirects. Donc, en effet, il y a des emplois de construction qui sont non négligeables, mais seulement temporaires. Et ensuite, presque indépendamment de la taille, il y a assez peu d'emplois directs créés par le centre de données, parce que c'est quelques emplois de ménage et de sécurité, si je suis bien les choses. Et ensuite, des emplois indirects. Alors, c'est un rapport de EY Consulting qui disait 1,5 emplois créés indirect par emploi direct. C'est pas facile à quantifier. Ces emplois indirects, c'est principalement des emplois de maintenance, c'est-à-dire maintenance électrique, maintenance éventuellement de plomberie pour les systèmes de refroidissement s'ils sont à l'eau, maintenance réseau, et également ce qu'on appelle les gestes à distance, donc l'entreprise peut employer des gens pour débrancher et rebrancher les ordinateurs, faire certaines opérations de configuration extrêmement simples qui éviteraient à ses clients de se déplacer pour les réaliser. Généralement, ça suscite des tensions ou des déceptions pour les municipalités ou par rapport à la quantité d'emplois qui est créée ou dans un jeu aussi parfois d'annonces qui est ambigu par les opérateurs de data center, parce qu'ils vont annoncer plus d'emplois en comptant finalement des emplois peu importe où ils se trouvent et les emplois qui sont directement créés localement. Donc c'est il y a un certain niveau de déception. Sur ce sujet, un certain niveau de déception
et puis aussi un argument, je cite notamment Sébastien Barle, adjoint au maire de Marseille, qui avait publié une tribune dans Libération le 31 août 2023 et qui avait notamment argumenté que les data centers de la Courneuve, qui couvrent 40 000 mètres carrés, avaient créé seulement 120 emplois, ce qui selon lui était un argument pour être au moins prudent, si ce n'est méfiant, vis-à-vis de ce genre de projet. Le même Sébastien Barle, et on retourne là à Marseille, exprimé sur ce sujet, notamment sur BFM TV le 19 septembre 2024.
Ce sont des ogres énergétiques, des monstres de consommation d'eau et de consommation foncière pour une richesse en fait sur notre territoire qui est très très limitée, puisque ça produit, c'est malheureusement 10 fois moins d'emplois que d'autres industries, notamment l'économie de la transition par exemple, qui générerait 10 fois plus d'emplois pour le même métrage en mètre carré. Donc c'est pour la ville en fait beaucoup d'impacts négatifs, comme l'industrie de la croisière d'ailleurs, qui a des impacts négatifs sur notre territoire et peu de retombées économiques. Et donc ce que l'on dit, c'est que c'est un secteur qui est à réguler. Il faut reprendre le contrôle, il faut que les pouvoirs publics reprennent le contrôle sur ces centres de données qui sont en fait aujourd'hui en fait porte ouverte pour les opérateurs de les GAFAM, notamment les géants du numérique.
Des ogres à réguler, on entendait là Sébastien Barles, adjoint au maire de Marseille. C'était le 19 septembre dernier. Très concrètement, Clément Marquet, on a déjà dit, et notamment via la structure du Grand Port Maritime de Marseille, qu'il y avait une forme de conflictualité entre État qui pousse finalement à ce genre d'initiative et municipalité. On se doute potentiellement de fait, et c'est ce qu'on vient d'entendre, entre municipalité et ses acteurs privés eux-mêmes. Qu'en est-il au niveau des riverains? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'on sait véritablement quels sont les enjeux lorsqu'un centre de données décide de s'implanter à quelques rues de chez soi?
Les riverains sont assez souvent méfiants parce que les centres de données n'ont pas bonne presse et la filière du coup s'en plaint aussi largement parce que dès qu'on fait des recherches sur Internet, on va identifier que s'il y a des risques de nuisances sonores, que ça occupe beaucoup d'espace, que c'est des façades qui sont pas forcément très élégantes, et ainsi de suite. Donc les riverains sont méfiants. Mais il y a des situations après qui peuvent être plus ou moins ambivalentes. C'est-à-dire d'une part que ces oppositions de riverains, parfois elles peinent à monter en généralité, ou alors c'est-à-dire à articuler d'autres enjeux que la petite lutte locale contre le data center. Elles peuvent aussi se satisfaire tout à fait des arguments techniques qui vont être avancés en disant on va régler les problèmes de bruit. Et puis après, quelque part, on met une jolie façade et tout le monde est content. Parfois, elle se cristallise sur une dimension particulière, par exemple Amazon et la question de la fiscalité. Et donc là, elles vont être plus difficiles à déconstruire, ces oppositions. Et dans le cas de Marseille, et des environnements de Marseille, on peut distinguer deux types d'oppositions qui sont deux types de configurations qui sont assez intéressantes. D'une part, le comité d'intérêt de quartier du 16e arrondissement, donc quartier Nord, qui s'inquiète de la multiplication des data centers sur le port pour des questions de conflit d'usage de l'électricité. Donc l'argument principal qui est débattu aujourd'hui entre l'opérateur et le grand port maritime et le comité d'intérêt de quartier, c'est de dire les 100 mégawatts qui sont installés à Marseille s'approvisionnent sur un poste de transformation électrique qui est RTE ils auraient pu aussi bien servir à accélérer l'électrification à quai des ferries et de la réparation navale, qui constitue à la fois une nuisance sonore et sanitaire. Donc quand ils arrivent, il faudrait permettre de leur éviter de fonctionner sur des groupes de fuel et de les brancher directement dans l'enceinte du port, et ces travaux prennent du retard. L'opérateur va dire que lui, il est dans son bon droit parce qu'il a réservé l'électricité. Et il y a tout un enjeu en fait de file d'attente pour les infrastructures de RTE sur les réservations électriques, où le principe c'est premier arrivé, premier servi, et derrière parfois des sortes de deals pour redistribuer l'électricité. Donc tout ça a très longtemps été pointé comme un problème en France, est une vraie tension. Ça fait partie des limites, en fait, quelque part, aux annonces des 100 milliards d'investissements sur comment on va réussir à faire du data center un peu partout par rapport à la situation, justement, d'empilement des réservations électriques. Et en même temps, depuis 2 ans, il y a des transformations dans la réglementation de l'électricité qui sont un peu complexes, qui visent à, justement, essayer de trouver de nouveaux compromis. Donc, on va dire que les choses sont en train de changer. On n'a pas encore assez de recul pour analyser les résultats.
Ophélie Coelho, on le voit, il y a vraiment la notion de conflit d'usage, et notamment autour de l'électricité, qui est un enjeu très important au niveau mondial. La quantité d'électricité consommée en un an par les centres de données est évaluée à seulement, et je mets là des guillemets, 1% du total produit. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Donc ce qu'on comprend, ce n'est peut-être pas tant la quantité d'électricité qui est demandée que celui véritablement de la concentration. C'est le fait qu'il y a une grosse demande à un seul et même endroit, et ce qui pose quand même de gros enjeux de planification. On n'a pas envie de se demander comment on a laissé faire ça, alors même qu'il y avait ce problème de conflit d'usage potentiel autour de l'électricité.
En tout cas, les controverses et conflits sur le sujet qu'on a pu voir dans plusieurs pays montrent qu'il y a des limites, effectivement, au modèle. Je pense que ce qui pose problème, c'est qu'on a peu de visibilité, en fait, hein, sur tout cela, et aussi parce qu'on a peu de données. On a peu de données disponibles par les acteurs privés. On a aussi des données qui parfois vont être un peu de la triche. Il y avait une enquête fin de l'année dernière de The Guardian qui montrait bien justement que les géants du numérique trichent pas mal en fait sur les chiffres qu'ils annoncent sur la consommation énergétique de leurs data centers. Donc derrière, c'est très compliqué, hein, et notamment pour les décideurs, d'avoir les idées claires sur justement les risques potentiels sur le réseau électrique. Donc je pense que là, il y a un temps en fait qui devrait être vraiment plus alloué sur cette réflexion-là, sur cette recherche de données. Et ce qui est peut-être éventuellement, sans vouloir faire de la peur, hein, sans vouloir promouvoir un discours de peur et de crainte, etc., je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une convergence d'éléments qui devraient alerter. Il y a d'un côté cette envie d'investissement et d'accélération. Je veux dire, pendant le sommet de l'IA, on a entendu accélération à toutes les sauces. Il faut accélérer, il faut aller plus vite, etc. Il y a un discours de dérégulation. C'est-à-dire qu'on veut enlever toutes les contraintes, simplifier, puis par ailleurs, oui, voilà, oui, simplifier oui. Au maximum. Et par ailleurs, justement, du coup, il y a des projets de loi. Il y a eu l'industrie verte, il y a eu également, du coup, le projet de loi de simplification de la vie économique, et qui comprend dans l'article 15, un projet de simplification d'implantation des centres de données par une centralisation de la décision. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par une décision d'implantation qui serait de passer par l'État, les collectivités, collectivités territoriales, éventuellement d'autres agences dans cette affaire, on centralise la décision et on va plus vite en fait dans la décision d'implantation. Donc ça pose un réel problème. C'est un projet de loi qui est passé au vote au Sénat, qui n'est pas encore été voté à l'Assemblée nationale. Ça pose réellement problème sur la capacité à avoir cette gestion des risques.
On l'entend Ophélie Coelho, planification et peut-être stratégie industrielle aussi, voilà, dans la gestion de ces centres de données nécessaires. Je renvoie les auditeurs, les auditrices à la tribune que vous aviez publiée dans Le Monde dans ce contexte-là de cette proposition de loi que vous mentionniez à l'instant. Merci infiniment à tous les deux, Clément Marquet et Ophélie Coelho, d'avoir participé à cette émission.